Azione!
J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant.
Il n'y a vraiment pas de quoi rire. Hein. C'est vraiment un AV, ce film.
Vous voyez, je dois rien bouleverser.
Vous ne trouvez pas ce film formidable? Moi, si. J'ai eu tellement pitié du malheureux monde.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
C'est un très beau film, j'en ai rien à foutre, mais c'est un très beau film.
On vit une époque formidable, Michel. Absolument. Tous les jours, on en a plein les yeux. Get là.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Le Comptoir du Cinéma, votre émission d'actualité cinématographique, uniquement sur Transistor. Ce soir, ici, au studio, on est avec Lucie et Nathan. Bonsoir à tous les deux. On s'approche petit à petit de la fin de la saison. Ça se sent parce qu'il fait beau et surtout parce qu'il fait jour quand nous enregistrons, ce qui est quand même jamais arrivé hein, jusqu'à récemment. Ça se sent aussi parce que l'été approche et avec lui tous ces blockbusters dont on ne parlera malheureusement pas. Deadpool 3, Le Comte de Monte Cristo, Furiosa ou encore Vice Versa 2. La sélection canoise est sortie. En plus, elle fait assez envie. Qui sait, peut-être que l'an prochain, nous serons accrédités pour y faire un tour. Qui sait de quoi demain sera fait. En tout cas, on sait de quoi aujourd'hui est fait, et dans notre émission, aujourd'hui est fait de la tête congelée de Pedro Pascal, d'une valise de Godmichet et de Tallahassee, Florida. Oui, il n'y a pas vraiment de transition avec Kung Fu Panda. Enfin, j'espère. Sans plus attendre, donc, on va se pencher sur Drive Away Dolls, le premier film en solo d'Ethan Coen, oui, celui des frères du même nom, qui nous avait quand même servi des films assez légendaires, tels que, au hasard, The Big Lebowski, Fargo, Burn After Reading ou encore Oh Brother. Ici, il signe avec son épouse Trisha Cook un road movie qui descend de Philadelphia à Tallahassee, où deux jeunes amies lesbiennes, Jamie, c'est Margaret Qualley, pardon, et Marianne, Géraldine Viswanathan, décident de quitter une vie qu'elles n'apprécient plus. Jamie, parce que son infidélité a trop énervé sa compagne qui la vire de chez elle. Marianne, parce qu'elle s'ennuie trop et que tout est morose. Elles se rendent donc dans un drive-away, c'est-à-dire une agence de location de voitures, où l'on attend de vous que vous rendiez la voiture que vous empruntez dans un lieu où elle est attendue. Et donc, si vous voulez aller à Tallahassee, prenez une voiture qui est attendue à Tallahassee. C'est ce qu'elles font, et hop, elles taillent la route. Sauf que, cette voiture qu'elles prennent, eh bien, elles n'auraient pas dû la prendre. La voiture aurait dû être récupérée par des gens particuliers, des malfrats, qui se mettent aussitôt à leur poursuite. En effet, cette voiture donc contient, sans que les filles ne soient au courant, quelque chose de bien particulier, une valise remplie de copies en latex de sexe d'hommes puissants, politiciens, sportifs, CEO. Ce bref parcours sera l'occasion pour les filles, comme pour leurs poursuivants, de faire des rencontres, de parler, de beaucoup parler, de lire du Henry James, et pour le réalisateur de faire une comédie au style très haché, très rapide, puisque tout ça ne dure qu'une heure 24. À ce titre, je trouve qu'on peut vraiment dire de Drive Away Dolls que c'est un projet dupieusien, avec son pitch absurde, ses guest stars de 5 minutes et ce world building à la fois hyper concis et très très singulier à l'univers du réel. Un dupieux vulgaire néanmoins, et qui, comme un mauvais dupieux, ne prend pas, mais alors pas du tout. J'en suis sorti, j'étais assez amusé, content que ça n'ait pas pris plus d'une heure et demie. Et puis, c'est le genre de film en faveur desquels le recul ne joue absolument pas. On parle la semaine prochaine du Mal n'existe pas, pour lequel c'est tout l'inverse. Franchement, je comprends pas qu'un film pareil ait pu être produit, genre produit sérieusement, et puis ensuite distribué. C'est pas du tout genre un mauvais film que je détesterais, mais bien plutôt un film mauvais au sens nul, où, mise bout à bout, les blagues semblent poussives, elles tombent un peu à l'eau. Les codes esthétiques de plans complètement désaxés, moi j'aime beaucoup ça, mais là ça semble être un peu vain. Les séquences vidéo kitsch dignes des meilleurs skyblogs sont drôles une fois, deux peut-être, mais pas trois et encore moins quatre, surtout quand elles s'éternisent. C'est-à-dire que voilà, c'est un film fun qu'il a fait pour rire, mais est-ce qu'il fallait le distribuer sur la planète quand il se fonde sur un paradoxe qui est à la fois de reprendre les codes du buddy movie sans du tout les subvertir, je ne sais pas. Alors qu'il démarre sur les chapeaux de roue, il dérape et finit sur le bas-côté. Admirez la métaphore. Lucie, toi qui avec Champ Libre avais programmé un cycle de projections autour de l'amitié bande à part, qu'est-ce que t'en as pensé de Drive Away Dolls?
Alors je te rejoins sur la question de la distribution déjà, parce que je me suis dit en fait en le voyant, c'est un film de plateforme. Genre, c'est un film qui aurait tout à fait sa place sur Prime, sur Netflix, tout ça. Genre, un bon truc à regarder le dimanche. Genre, quand même de la bonne qualité de comédie, voilà, à mater comme ça. Mais je me suis dit, le cinéma n'en avait pas spécialement besoin. Et c'est rare que je me dis ça quand je vais devant un écran, parce que je suis contente que les films soient là et que c'est mieux de les voir comme ça. Mais juste, ouais, je me suis dit, peut-être que le Macbeth en noir et blanc qu'ils ont fait juste avant méritait un peu plus sa place au cinéma que sur Apple TV. Et celui-là, à l'inverse, aurait mieux fait de la distribuer comme ça. Mais en tout cas. Enfin voilà, c'était fun. Alors je suis un peu moins rentre dedans sur sur la nullité du film, mais j'ai trouvé que dans le genre comédie, ça touchait pas tant que ça à une forme de vérité qu'on peut attendre des fois d'un scénario, enfin quelque chose d'un peu profond dans les personnages, parce que en fait ça devenait de moins en moins profond presque. Enfin, il y avait 2-3 trucs qui marchaient, mais en fait c'était pas si bien écrit que ça. C'était très un peu bâclé sur la fin. Et en fait, juste le fait que ce soit barré et un peu pétillant comme ça, ça fait que j'étais un peu ennuyée. Et puis au début, j'avais quand même l'impression un peu d'un film de lesbienne écrit par un mec blanc. Voilà. Bon, après, il l'a fait avec sa femme, mais heureusement qu'il y a le personnage
de
Marianne,
quoi.
Sa femme
qui est même lesbienne, comme elle le revendique dans toutes les interviews.
<Bien sûr. rire> Mais en tout cas, je sais pas, il y avait un truc, ça parlait tout le temps de cul, en effet. L'intrigue, t'as révélé le plot twist, mais l'intrigue tourne autour de,
oui.
de God,
j'ai
quoi.
J'ai hésité,
enfin,
et puis
truc,
bon, je me suis dit, bon.
Et ouais, c'est vachement un gros trait, en fait. Hein. Dans le buddy movie, il y a toujours des caractères très marqués, des caractères antagonistes, surtout. Mais je sais pas, j'ai presque trouvé dans mon souvenir que les films genre 21 Jump Street avaient plus de background, et de relations, parce qu'en fait c'est à dire qu'elles sont amies, mais on sait pas pourquoi, on a aucune idée de leur passé. Moi j'y crois pas du tout au début, en fait, quand elles sont amies, alors ouais, que j'ai pas vraiment, c'est à peine montré leur contexte social, leur environnement, etc. Et on l'envoie une au bureau, on comprend qu'elle est un peu coincée, mais c'est à dire je sais pas dire qu'elle est coincée pour, enfin en fait tout était expliqué et j'attendais un peu plus de creuser ça, quitte à baser leur relation et le fait que l'une a peut-être des sentiments pour l'autre sur quelque chose qui a un ancrage dans le passé un peu plus abouti. Donc voilà, bon, c'était plein de choses comme ça qui faisaient que effectivement ça manquait d'un peu plus, même dans le genre de la comédie. Donc voilà, je te rejoins quand même.
Ouais, parce qu'effectivement, il aurait pu durer quand même un petit peu plus longtemps pour développer ça. On pourrait y revenir. Nathan, toi, t'en as pensé quoi ?
Bah, moi, je suis assez d'accord et je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant dans ce que t'as dit, Lucie, c'est sur la question de la vérité qui se dégage pas du tout de ce film. Et moi, je dirais même plus, c'est que j'avais l'impression de voir un vieux film, en fait. Genre, je trouve que tout est très daté. Alors, non seulement parce qu'il reprend énormément... Des procédés, des ingrédients de la formule des frères Cohen qui a fait leur succès par le passé, mais aussi parce que voilà, dans sa contextualisation, le choix du propos politique et des causes qu'il entend défendre et la manière dont il le fait, en fait ça fait très daté et donc c'est assez inoffensif, pas très efficace, et ça passe notamment par... voilà, c'est aussi justifié par le choix de l'esthétique 90s. Alors c'est sympa, c'est boule à facettes, paillettes, néon, c'est toujours très joli, mais du coup là c'est un peu gratuit et arbitraire et pas hyper intéressant, en fait, j'ai trouvé. Et une fois n'est pas coutume, moi je vais reprendre une critique que j'ai lue dans les cahiers du cinéma et que j'ai trouvé assez drôle et assez juste, en fait. C'est les cunnilingus ont bon dos dans un film qui n'a de queer que le sujet. Et en fait je suis assez d'accord, c'est qu'il y a un truc où c'est un peu... moi j'avais limite l'impression que Ethan Coen essayait de se donner une caution LGBT friendly, mais c'est assez forcé et je sais pas, ouais, c'est ce que tu disais sur la question du male gaze et tout. Genre, je trouve ça assez bizarre et globalement pas convaincu non plus par les gags, par l'écriture. Enfin, moi je suis très très client de l'humour des films des frères Coen habituellement. Mais ici, c'est toujours aussi absurde, décalé, il y a des trucs qui marchent très bien. Mais à côté de ça, j'ai trouvé ça globalement quand même plus bourrin et moins subtil que ce qu'ils avaient pu avoir l'habitude de faire. Avec les bastons, les bruitages, les transitions gags, enfin vraiment genre... Moi j'ai envie de faire un petit mea culpa, c'est que il m'apparaît clair qu'Ethan Coen est un auditeur assidu des émissions du comptoir du cinéma et qu'il a pris note de mes coups de gueule sur les fondus au noir. mais grand mal lui en a pris, et vraiment je me sens désolé parce que là on se retrouve avec des transitions auxquelles les PowerPoint que je faisais quand j'étais en 6ème n'ont rien à envier. Et donc voilà, c'est que des trucs comme ça. Alors, tous les effets de mise en scène sont surappuyés et vraiment exacerbés quoi, et suraccentués, et je trouve que c'est un choix qui peut être marrant, mais là en tout cas ça m'a vraiment paru too much. Et encore heureux, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pas très long, mais même en seulement 1h24, ça m'a paru vraiment trop, et à la fin j'étais en overdose du film, quoi. Enfin, vraiment, c'était terrible.
Non, mais oui, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que tu parles des transitions, elles sont là pour justifier de façon un peu arbitraire une succession de scènes décousues sur lesquelles on a juste envie d'écrire en gros et en rouge, comme le faisait un de mes anciens professeurs de prépa, LL, point d'interrogation, traduisait lien logique, point d'interrogation. Non, parce que là, le scénario n'est en fait... Enfin, bah, il n'y a pas de scénario, globalement. Hein. On a, pour toute transition, des moments complètement cons. D'abord, assez drôle, puis juste relou, de délire psychédélique. Bon, voilà. Alors, il y a plein de scénettes qui sont un peu marrantes. Hein. Moi, j'aime vraiment bien toutes celles avec le personnage de Suki, qui est interprété par l'actrice Bini Feldstein. Mais c'est pas assez pour tenir un film. Ça fonctionne comme une espèce de succession de gags. Y a une espèce... Les personnages féminins, notamment celui donc, de Margaret Qualley, qui ressemble à Timothée Chalamet, hein, je précise que j'ai pas dit ça comme ça, vraiment beaucoup. Bref, elle est assez charismatique, mais il n'y a aucune alchimie entre elles, t'as raison Lucie, moi je trouve qu'on ne croit pas du tout au fait qu'elles soient amies avant le film, et moi je me suis bien plus amusé pendant le film avec leur contrepoint masculin qui était vraiment eux les gens drôles quoi, et donc en fait à cet égard c'est vraiment, alors ça démarre à toute vitesse par une scène hyper au montage hyper haché et tout, et puis c'est une succession vraiment de storylines assez inconsistantes qui veulent rien dire, qui sont résolues plus vite que dans Kung Fu Panda 4, le film d'ailleurs quand même plus court. Tout finit un peu en queue de poisson alors qu'on sent un potentiel réel, genre la scène où les filles se font enlever, elle est hyper sèche. Et ça s'arrête d'un coup, ça nous prive d'un moment de comédie noire plus long qu'une seule comédie basée sur la différence, premier plan quelque chose de sérieux, arrière-plan quelque chose de grotesque, et là d'un coup ça tourne court, c'est un gag qui marche en soi, mais qui est plus un truc de court-métrage en fait. Là l'investissement spectatorial est, si je puis dire, pas du tout rentabilisé.
Oui, surtout ça s'enchaîne très vite à la fin, contacter un sénateur, c'est pas un problème, oui. Décider de vouloir s'engager là-dedans et demander des millions, enfin, il y a plein de trucs irrationnels, t'étais là, mais... Enfin, stop, en fait, vous voulez rentrer chez vous, vous manquez d'être tué. Enfin, bon, en vrai, je courais pas du tout après le naturalisme à ce moment-là, mais juste le fait que cette... Enfin, disons que j'ai pas de... Comme tu dis, c'est inoffensif, en fait, c'est un bon terme, parce que, genre, j'ai pas peur pour elle, à aucun moment, je me dis que tout glisse tout seul. Et donc quand elles sont menacées par quelqu'un qui a un gun, voilà, bon, ça me fait rien du tout, et surtout ça va très vite, et après on a vu plusieurs fois la même chose quoi. Et aussi il y a un truc qui est un peu gênant, c'est je sais pas, le fait que ce soit des femmes, genre ça normalise le fait qu'elles veuillent coucher avec des lycéennes qui sont mineures, enfin je sais pas, il y avait des trucs bizarres tout le temps, ouais. Quand j'étais là on parlait de... Enfin, le female gaze, c'est censé, quand c'est théorisé par Isbury, etc., même si je suis pas fan de son livre, mais il y a ce rapport d'égalité aussi, même dans le point de vue, etc. Et là, je sais pas, il y avait un truc très prédateur, forcément, avec Margaret Qualley, qui faisait que t'avais quand même envie de dire que ce personnage était juste cringe. Et après, l'espèce de flashback de voyeurisme.
Oui.
Pourquoi pas un éveil de la sexualité, voilà, quelque chose de joli, avec en plus le regard porté sur ce mari, de la femme qu'elle aime observer. Voilà, mais bon, après, en fait, vu qu'il n'y avait pas grand-chose de plus, c'était un peu gratuit, et donc c'est une espèce juste d'ode au désir, mais un peu basé sur des stéréotypes, donc on... Voilà, bon, je ne savais pas ce que le film essayait de faire, à part dire c'est un film sur des lesbiennes.
Ouais, mais c'est exactement ça, et je suis vraiment d'accord qu'il y a plein de moments où moi, je me suis dit, mais Margaret Qualley, son perso se comporte vraiment juste comme un gros mec, quoi, et il y a un moment où c'est quand même... ça pose problème, non seulement d'un point de vue... Enfin, c'est très cringe, c'est très chelou, etc. Et puis même juste même si on accepte d'essayer d'entrer dans le film, on a du mal à cause de ça, parce que les personnages sont pas développés, pas caractérisés, on les voit peu. Effectivement, la fin, ça s'enchaîne à 200 à l'heure, et il y a un moment où moi je me suis dit, bah tant mieux que ça devienne un peu plus nerveux, parce que en vrai, même en 1h24, moi il y a un moment où je commençais à un peu m'ennuyer, parce que ça tournait un peu en rond, et que, je sais pas, c'était poussif, même dans l'écriture, les dialogues, il n'y avait pas cette énergie-là. Mais il prend le contrepoint vraiment à l'extrême opposé, et du coup ça va pas mieux à la fin parce que ça va beaucoup trop vite. Vous l'avez dit, tout s'enchaîne sans qu'on ait aucune explication, aucun LL du coup, lien logique, si ce n'est ces transitions LSD, et qui à un moment, au début elles peuvent être marrantes, mais à un moment où juste elles surviennent, enfin c'est même plus des transitions, c'est juste qu'elles viennent couper les scènes quoi. Et là t'es juste, enfin c'est hyper énervant en fait, enfin c'est très très chiant. Et puis ouais, je suis complètement d'accord aussi sur ce que tu disais sur le fait que là où le film fonctionne, enfin le film ne fonctionne vraiment que dans les scènes où il se moque franchement des personnages masculins, donc dans les scènes effectivement avec les deux mecs qui sont à leur trousse dans la voiture et tout, ces scènes là sont assez drôles, les scènes aussi où ils vont voir l'ex de Margaret Qualley, enfin je trouve que c'est les moments où ça marche le mieux, où le film est le plus drôle. Mais après c'est le cas dans plein d'autres films des frères Coen, hein. Et a fortiori ici, il y a quand même un décalage marrant dans le fait qu'ils sortent de films d'action des années 90 pour se retrouver propulsés dans une communauté gay, ils se font casser la gueule et tout. Enfin, genre, il y a des trucs qui sont quand même assez marrants sur ça. Mais de l'autre côté, les personnages féminins, du coup, je trouve qu'ils font pas le poids et ils sont bloqués dans, vous l'avez dit, dans des stéréotypes parfois assez réducteurs, carrément réducteurs, et du coup qui empêchent le film d'avancer vraiment. Et globalement, je trouve qu'à part quelques scènes marrantes qui rythment le film, il s'épuise assez vite et il perd en fougue et en folie pour gagner en clichés d'écriture et de mise en scène sur le road movie dans l'Amérique des années 90, quoi.
Ouais, vraiment. Et puis, en fait, c'est effectivement c'est un problème qui rejoint exactement ce que vous venez de dire tous les deux, c'est que c'est un film qui est effectivement assez bête, je veux dire pas très très malin au sens futé du terme, parce que ça va reprendre ses codes. Enfin, effectivement, le personnage de Jamie pourrait être interprété par un homme, il y a zéro problème là-dessus. Manspread en continu, elle parle que de cul, et elle est vraiment la fille hyper débridée, qui est aventureuse, qui va forcément décoincer l'autre qui est réprimé. Et le seul modèle de sexualité valable, finalement, serait donc celui de Jamie. Je serai spoil encore, hein, mais bon, on s'en fout. Qui a une idéologie de libération sexuelle qui, en fait, est une idéologie assez boumeuse, hein, parce qu'il est quand même né en 1954, le réalisateur. Assez questionnable aujourd'hui, enfin, effectivement, avec cette obsession de la pénétration qui interroge. Et ça sent assez le pinkwashing, en fait. Là-dessus, ouais, t'as complètement raison, parce que franchement, sans le nom d'Ethan Coen à la réalisation et sans l'argument, mais si, regardez, ce sont deux femmes, ce que tu disais, Lucie, ça n'a rien d'intéressant ni de subversif, ça ne réinvente rien. Moi, j'étais même surpris qu'on puisse encore faire des plans pareils en se disant, oui, ça passe. Je pense notamment, il y a des plans un peu. Je sais pas si vous voyez, dans OSS 117.1, au tout début, la caméra se détourne de la scène de sexe pour faire un focus sur un objet sur le guéridon, la table de chevet. Sauf que à Zavanicius, il y avait une espèce de pastiche parce que la caméra, elle était comme douée d'une espèce de volonté en voulant quand même regarder un peu, puis en se reprenant, en retournant sur un focus sur le guéridon. Là, non, il y a juste effectivement un gros plan sur la flûte de champagne qui est posée sur la table de nuit. Il n'y a aucun décalage là-dedans, et en fait c'est un film disait inoffensif, qui manque de subversion, parce que on a l'impression, et la bande-annonce donne cette impression, et moi j'étais complètement abusé par la bande-annonce, d'où la présence de ce film au programme. On dirait que le film va être vraiment punk, et puis il y a ce côté forçage du trait au début qui est assez convaincant, avec un montage en diable, parce que Claire d'ailleurs à la JDR nous a remarqué qu'on parlait pas assez du montage, qui est d'ailleurs ici aussi œuvre de Trisha Cook. Bref, ce montage un peu faussement punk va pas du tout déconstruire les codes hétéronormés des États-Unis, quoi. Il va juste les réadapter aux filles, et ce que je trouve dommage, c'est qu'il va pas proposer de contre-récit, juste un récit similaire, parce que ça aurait été intéressant de voir une contre-culture lesbienne féminine se développer comme le faisait le film japonais de l'Incisus dont j'avais parlé dans l'épisode sur écran mixte. Ici, en plus, c'est une contre-culture qui aurait pu croiser la contre-culture noire, puisqu'à un moment, ils se retrouvent dans un bar de jazz au milieu de nulle part, les deux personnages masculins. Mais non, il n'y a jamais rien. Et les deux femmes, elles avancent dans un monde où il ne leur arrive jamais rien du fait de leur homosexualité, ce qui est pas du tout quelque... Enfin, j'y tiens pas, hein. Mais disons que c'est un peu chelou dans la mesure où elles disent continuellement « Ah, mais c'est dangereux, la Floride, il y a le gros panneau Family, Faith, Values » quand elles arrivent dans l'état de Floride, etc., avec Matt Damon dessus. D'ailleurs, c'est très amusant. Mais c'est tout, quoi. C'est-à-dire qu'autrement, c'est accepté en permanence sans que ça vienne créer un monde parallèle pour autant qui aurait été un peu intéressant à construire. C'est une espèce d'entre-deux, ça ne crée pas d'année 1999 alternative, et c'est dommage.
En tout cas, disons que le côté provoque mais du coup, de personnage de Margaret Qualley est léger, quoi, dans ce que...
Oui.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas politique ou quoi, c'est juste... c'est fun, c'est une queen rentre dedans, quoi, bon... mais bon, juste pour défendre le film quand même, j'ai trouvé ça beau que leur première scène d'intimité de sexe soit une espèce de moment d'apaisement. Ouais. Enfin, le film pas du tout comme le reste pour le coup. On est en cadrage plan épaule. C'est vraiment le personnage justement qui a pas d'expérience sexuelle depuis longtemps. On est focus sur elle, sur son plaisir. Il y a une sorte de voilà de moment apaisant. Même Margaret Qualley, elle est filmée de la même façon aux épaules et on les, enfin il y a tout le moment où elle se déshabille. Donc c'est quand même voilà, il n'y a pas juste la flûte de champagne. Il y a quand même ce temps qui est pris et du coup j'étais contente que le film fasse ça parce que pour le coup là il y avait un rapport d'égalité et une autre façon aussi de montrer le sexe entre filles. Enfin ça s'arrête voilà, c'était plus joli. Donc, et ça montre aussi une vague évolution du personnage de Margaret Qualley. Donc voilà, je serais pas aussi noire, mais c'est clair que voilà, qu'il y a ce truc un peu anecdotique globalement qui fait que c'est dur d'adhérer vraiment à ce qui se passe.
Ouais, je suis assez d'accord quand même aussi que cette scène-là elle correspond vraiment au moment où je me suis dit que ça faisait du bien parce que le film retombait un peu et se calmait et proposait quelque chose d'un petit peu plus intéressant mais après voilà, et la scène d'après c'est les mecs qui débarquent dans la chambre et là ça repart à 200 à l'heure.
Ah ouais,
et la
crie,
fin
c'est
et la fin devient mais la fin elle est incompréhensible. Il y avait Miley Cyrus où j'ai rêvé
oui,
un moment
oui,
dans
oui, elle est dedans
mais what mais genre, voilà et puis bon alors il y a Matt Damon son caméo je l'ai trouvé assez marrant
ouais.
Pour le coup mais pas forcément assez exploité aussi peut-être je sais pas c'est
ouais ça, la bande annonce à la fin je te donne l'impression que ça va être un rôle plus important que juste un caméo quoi.
Ouais, moi j'avais pas vu je me rappelais pas pourtant j'ai vu la bande annonce et je me rappelle avoir m'être senti floué mais je me rappelle pas avoir vu enfin je me rappelais pas que Matt Damon était dans le film. Du coup, j'étais assez surpris quand je l'ai vu sur le panneau, j'ai trouvé ça très drôle. Et au début, je me suis dit qu'on allait le voir que sur le panneau, ce que j'avais trouvé très marrant. Et puis finalement, non, il apparaît à la fin et c'est assez réussi. Effectivement, ouais, même le caméo de Pedro Pascal au début et qui revient après, on va pas spoiler, mais. et assez bienvenu. Voilà quoi. Puis ça se termine sur un regard caméra. Enfin, je veux dire, allons-y gaiement. Il n'y a rien qui va vraiment à la fin. C'était... Et puis, non, après, moi, ma grosse frustration quand même aussi, parce que j'attendais pas mal de ce film finalement, c'est que. Je trouve que même c'est pas si drôle quoi finalement
ouais, c'est ça, on se marre pas.
Par rapport enfin, par rapport au potentiel du postulat de départ c'est vraiment pas assez marrant et je trouve ça globalement dommage quoi
ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas un film très 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 drôle et c'est dommage parce qu'il y a une espèce de paradoxe entre des scènes qui sont vraiment amusantes genre celle avec le caméo de Matt Damon à la fin où il était un tenant du libéralisme et puis on l'a fait chanter, donc il s'éloigne en murmurant qu'il croyait à la liberté du marché, mais que maintenant il sait plus. mais en fait, donc il y a des vannes et des trucs assez drôles, mais en même temps, tout le reste paraît poussif. Tu disais au début de l'émission, Lucie, que c'était pas hyper bien écrit. Effectivement, ça semble un peu vouloir te forcer à rire parce qu'il y a aucun naturel et au point où ça dessert vraiment le tout, c'est-à-dire qu'on dirait presque une caricature de la verve qu'on connaît des réalisateurs. C'est ni méchant ni mordant et les blagues, même celles que je viens de citer, voilà, vous avez la meilleure blague du film, c'est vraiment pas la peine d'y aller, même les blagues comme celles que je viens de citer sont un peu des espèces de vannes de stand-up qui sont répétées, qui va avec l'aspect décousu dont je parlais, qui sont un peu répétées tout le long du film. Par exemple, Tallahassee comme ville de merde, c'est interminablement suriné, c'est drôle par la répétition, mais en même temps, c'est vrai, c'est un peu une vanne de stand-up en fait, parce que le cinéma n'apporte rien, comme tu disais, Lucie, à cette blague-là. Par exemple, ça aurait été drôle de, genre pour nous le, de nous le prouver, en fait, genre quand elles entrent dans Tallahassee, de montrer ce... genre à quel point c'est horriblement nul et juste nul ou banal et de les voir enfin de jouer sur certains codes ça aurait été amusant, mais là ça fait un peu plouf et ça retombe un peu sur ce que je disais d'une espèce de vibe de court-métrage un peu le cul entre deux chaises ou ouais non je vais pas faire cette blague là parce que sinon Léopold va pas renouveler pour la grille de l'an prochain mais qui ça frise la vulgarité sans jamais l'assumer pleinement. Dans un entre-deux un peu désagréable entre le burlesque assez fin des frères Cohen et en même temps la grosse farce des frères Farrelly. Si, par exemple, si je prends Marie à tout prix, oui, bah là, on va montrer des trucs vraiment bien crado, mais au moins, bah, on rigole. Là, j'ai l'impression qu'il fait un peu un pas de deux, il ne sait pas trop jusqu'où il va et c'est dommage.
Oui, je suis d'accord.
Ben voilà, bah écoutez, consensus du comptoir du cinéma sur Drive Away Dolls, qui est un film en salle depuis 2 semaines, donc sorti le 3 avril 2024. Scénario signé Ethan et Trisha Cook, et c'est vraiment pas très bien. Voilà, ne vous fiez pas à la bande-annonce, s'il vous plaît. Et avant de conclure l'émission, on vous donnera nos conseils. On commence avec toi, Lucie.
Bon, je sais pas si vous avez eu la même idée, mais je pense quand même qu'il faut conseiller Thelma et Louise si on veut conseiller un road trip féminin avec deux filles qui décident de lâcher leur vie parce que ça va plus et pour des raisons un peu plus poussées, expliquées et profondes. Et même, c'est un super film. Je sais pas si on peut dire film de lesbienne. Bon, on s'en fiche de mettre cette étiquette en fait sur ces deux personnages parce qu'elles ont une amitié avant tout qui est super. Mais c'est vraiment un film même assez doux, amer et qui montre le côté peut-être plus sympa. Il n'y a pas du tout ça dans le film, c'est-à-dire que c'est pas un road trip avec des paysages. On fait pas rêver sur des grands espaces, mais ça reste un film punchy, quoi. Vraiment, Thelma & Louise, ça ne vieillit pas. Donc allez-y. Et je voulais juste conseiller aussi une chaîne YouTube que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Cinéma et Politique et qui fait des contenus vraiment hyper, hyper détaillés, vraiment dire une émission Arte. C'est vraiment super, il y en a sur justement comment filmer les femmes filmées au cinéma, sur le giallo, sur les films de conspiration post-JFK, enfin vraiment il y en a sur tous les sujets qui mélangent toujours des questions politiques et c'est vraiment très complet, donc voilà, je vous invite à aller voir.
Merci beaucoup, et oui, pour Thelma et Louise, effectivement c'est un super conseil. Je vous conseille aussi à titre personnel la parodie qu'en ont fait le duo comique French and Saunders, un duo britannique extrêmement drôle qui a fait énormément de parodies de films, et celle de Thelma et Louise est vraiment excellente. Nathan, ton conseil?
Alors moi je vous rejoins déjà sur ça, alors pas sur la parodie parce que je la connais pas, mais je vais regarder ça, mais sur Thelma et Louise, c'est vrai que on y pense forcément et c'est quand même autrement plus abouti et profond.
C'est le Ridley Scott Redemption Arc ouais, au confort du cinéma, voilà. Enfin, Napoléon.
Comme quoi,
tout est mal vu.
Tout peut arriver. Donc ouais. Voilà, et moi j'avais pensé à... Enfin oui, je voulais conseiller parler des frères Cohen ensemble parce que c'est résolument mieux que ce qu'ils font séparément. Sans vouloir citer les plus connus qui sont forcément tous... pour beaucoup en tout cas excellent et qu'il faut évidemment rattraper si ce n'est pas déjà fait, mais je voulais en conseiller un qui est peut-être moins, enfin plus passé inaperçu et plus critiqué aussi, et alors que je le trouve un peu sous-côté, c'est leur dernier en fait, celui qui était sorti sur Netflix en 2019 je crois, La Ballade de Buster Scruggs, qui est pas mal, voilà, c'est bien. Je sais pas, c'est pas leur meilleur film, je sais même pas si c'est leur meilleur western parce qu'ils en ont quand même fait quelques-uns, mais c'est chouette, c'est un film à sketch assez marrant, avec au début c'est surtout le premier sketch qui est très drôle, avec une espèce de comédie musicale dans le Far West, enfin c'est assez fun, voilà.
Merci beaucoup, comme quoi on n'est pas aigri ici. Moi mon conseil il est sur la très chouette plateforme Filmo TV, c'est la rétrospective qui consacre à Alice Guy, voilà, qui est une pionnière du cinéma au tournant des 19e et 20e siècles. C'est un nom dont on a beaucoup parlé et qui est beaucoup revenu dans le cadre d'une relecture féministe de l'histoire, ou même tout simplement féminine ici, mais il est intéressant de pouvoir voir ces films en version restaurée en plus, et d'apprécier son très grand talent de fiction, à la fois dans le western, dans la fantasy, et de voir quelle technique elle met déjà en œuvre. Et puis comme toujours, le cinéma des premiers temps, c'est assez bouleversant. Et puis dans un tout autre genre, je voulais vous signaler une bande-annonce, non pas celle déjà avidement commentée par le monde cinématographique de Joker 2, mais celle de Sous la scène, qui est un film qui sortira sur Netflix le 5 juin prochain, avec Bérénice Bejo, réalisé par Xavier Jean Gens, je ne sais pas, à qui l'on doit des chefs-d'œuvre comme Budapest avec Monsieur Poulpe ou encore le premier Hitman. Le principe, dans un Paris prêt à accueillir une grande manifestation sportive, l'épreuve de natation du triathlon doit avoir lieu dans la Seine, sauf que, problème, on a repéré un requin dans la Seine, et oui, bim, on ne s'y attendait pas. Et moi, je trouve que c'est vraiment un pitch extrêmement réjouissant. Voilà, j'aime bien les films de requins, j'aime bien les films de genre complètement inattendus aussi. Donc j'espère juste que le film ne se prendra pas trop au sérieux, c'est vraiment mon espoir. Mais vu le casting d'un sosie de Valérie Pécresse dans le rôle de la maire de Paris, j'ai bon espoir. C'est quelque chose qui fait assez envie, qui ne prendra pas la tête. En plus, sur la bande-annonce, il y a un remix en mode épique orchestra des petits poissons dans l'eau.
<C'est ça.
rire> Ce qui est quand même magique pour accompagner les images.
Ouais, mais je n'arrive pas à savoir à quel point ils sont second degré. Mais... et du coup, j'ai un peu peur du film, mais c'est vrai que ça donne très très envie.
Moi, je ne regarde que si Bérénice Bejo joue le requin. Mais...
et si Macron se baigne, comme il l'a promis dans la scène à la fin, qu'il se fait bouffer par le requin, là, vraiment.
Voilà, une fois de plus, on dénonce hein, sur le...
ça s'engage.
Bon, ben voilà, tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les deux, Lucie et Nathan, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Evil Does Not Exist, Le Mal N'Existe Pas, Akua Sonzai Shinai, de Ryusuke Hamaguchi. Voilà, encore une fois, je fais preuve de mon plurilinguisme sur cette émission. Ce sera, comme d'habitude, disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, ben portez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous envie de nous rejoindre pour les deux épisodes qu'il reste, surtout n'hésitez pas. Voilà, bonne soirée, bonne journée à tous et à tous, et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor. Thank you.